Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
Vous allez rencontrer une femme exceptionnelle, une femme née dans un corps de garçon qui a choisi de vivre sa vie comme elle l'entend et qui est devenue une reine de la nuit des années 70. My name is Galia. Come into my saga. I'm your desire. You will be my fire. Welcome to my night. Welcome dans Minute Papillon, Galia Salimo.
Bonjour, c'est Denis.
Il est génial ce morceau, vous êtes reine de la nuit parisienne, vous avez été danseuse dans les plus grands cabarets parisiens, le Carousel, le Palace, l'Alcazar, le Queen. Et alors cette chanson, Welcome.
Oui, alors cette chanson Welcome, c'est un CD que j'avais envie de faire une chanson d'entrée pour mes soirées.
Ouais.
Pour mes soirées, pardon. J'avais envie de faire pour mes soirées et j'ai rencontré des copains qui étaient là et ils ont décidé de qu'on enregistre ce morceau.
C'est génial.
Voilà.
Ça a pas vieilli.
C'était un peu mon intro.
Ouais. Bah, c'est
introduction.
Bien.
Introduction.
C'est bien d'avoir son introduction. Bah ouais, sa bande originale.
La soirée s'appelait Over Kitsch.
Over Kitsch.
Au Queen.
Vous étiez super kitsch.
Ah, j'étais hyper kitsch.
Vous ressembliez à quoi?
À moi.
Mais pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas vu depuis longtemps.
Je suis une métisse, grande, avec des grands yeux bleus, blonde, c'est pas vrai.
Vous racontez n'importe quoi. Alors, votre histoire est fascinante parce que vous êtes né garçon et vous avez décidé de vivre une vie qui vous ressemble, donc de devenir la femme que vous avez toujours été.
Non. Je n'ai pas décidé,
non.
C'est la vie qui a décidé pour moi.
Ça veut dire quoi ça?
Parce qu'au départ, moi... Je me sentais fille, dans un corps de garçon. On me disait que j'étais un garçon. Bon, pourquoi pas. J'ai essayé de l'être jusqu'à 10 ans, mais ça fonctionnait pas.
Ça veut dire quoi, ça fonctionnait pas? Vous ressentiez quoi?
Ça veut dire que je ne ressentais pas les choses de la même façon qu'un garçon.
Ouais.
Un exemple facile. Quand je lis un livre, tout de suite, je me mets à la place de l'héroïne.
Ouais.
Je me mets pas à la place du héros. Vous voyez? Ensuite... Quand je suis à l'école, vous savez comment sont les petits garçons, ils sont plus ou moins, comment dirais-je,
un peu bagarreurs.
Ouais. Bagarreurs et tout, donc je suis toujours dans mon coin. Mais j'avais compris une chose, c'est qu'il fallait être drôle. Drôle et la meilleure de la classe. Et c'était ma force. Ma force a été les études, au départ.
Parce que vous souffriez, Galia Salimo, d'être
une
fille dans le corps d'un garçon?
Mais, parce que... mais j'avais tout faux. Ouais. Imaginez que je suis née dans les années 50 à Marseille, dans le quartier le plus pauvre de Marseille, qui s'appelle le Panier. Mmh. En plus d'une famille métisse, c'est-à-dire mon père était noir, mon père est comorien, et ma mère, mais à l'époque les Comores étaient françaises, mon père était comorien et ma mère d'origine italienne. Et dans le quartier où il n'y avait que des Corses et des Italiens au Panier, nous étions la seule famille, comment dit-on déjà aujourd'hui,
Métisse, justement, ouais.
Oui, métisse, voilà.
Et donc,
j'en souffrais.
Vous souffriez de racisme?
Quand on est enfant, on veut être comme les autres. Et j'étais pas comme les autres sur tous les points de vue. C'est-à-dire, pauvre, black, et en plus, mal dans ma peau, parce que je croyais que j'étais une fille, on me disait que j'étais un garçon.
Vous pouviez parler à vos parents et dire, papa, maman,
non.
Je suis une fille
non,
dans un corps
pas.
De garçon.
Non, sûrement pas. Mon père, dès qu'il me voyait avec une poupée, il me sautait dessus avec une trique. Mais je n'en veux plus. Je comprends. Vous savez, dans ces milieux-là, j'ai une chanson de Brel, ces gens-là, dans ces milieux-là, pour s'en sortir, il faut être comme les autres. Et ils avaient peur, et voilà. Ils avaient peur pour moi, je les comprends.
Ce qui est formidable, Galia Salimo, c'est qu'il fallait être comme les autres dans votre milieu et vous avez choisi de ne pas du tout être comme une autre. Quand vous partez à 17 ans, donc on est à la fin des années 60, vous avez 17 ans, vous quittez Marseille pour Paris. Avec quelle envie? Qu'est-ce que vous imaginez trouver à Paris?
Ma vie. J'imaginais me trouver moi. Être moi. Curieusement, j'ai essayé d'être le garçon que ma grand-mère souhaitait que je sois. Hélas, elle est partie trop tôt. Parce qu'elle aurait compris, elle. Mais bon, passons. Pardon.
Mais vous êtes émue, c'est normal.
C'est rien du tout. Ça n'existe
mais
pas.
C'est beau l'émotion.
Non, ça n'existe pas.
Vous savez, moi je pleure au cours de certaines interviews aussi. D'ailleurs, si vous continuez un peu trop, je vais pleurer. Non, c'est important d'accueillir ces émotions.
C'est vrai. Ben aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je les accepte, mais je les ai beaucoup...
Enfouis.
Enfouis, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Il fallait être souriante, attentive aux autres, jamais malade, jamais rien, toujours là.
Dans votre métier de show business ?
Oui, c'est mon métier, j'ai choisi. Pas tout de suite. Au départ, donc quand je suis arrivée à Paris, je voulais être une fille, mais il y avait deux. Il y avait deux.
Il y avait deux quoi ?
Deux issues.
Ouais.
Soit les planches, c'est-à-dire le cabaret, soit le bois. Le bois de Boulogne,
c'est la prostitution.
Il n'y avait pas 36 solutions à mon époque. Aujourd'hui, elles sont avocates, elles sont. Un jour, elles seront présidentes de la République. Enfin,
bien sûr.
Pour elles. Mais ça sera dans très longtemps. Mais pour l'instant, à l'époque, il n'y avait que deux solutions.
Donc vous choisissez si c'est.
Moi, je ne pouvais pas.
Les planches.
Franchement, en plus, j'avais des dons. Docteur, ma nature métisse, je savais bouger, je savais danser,
sur quelle
j'aimais
scène
le spectacle.
Vous mettez le pied, Galia, alors, la première fois, qui vous aide à devenir
fois,
cette femme
non. Justement, c'est une amie qui s'appelle Fortuna, que j'avais connue dans une autre vie, dans notre vie à Marseille de petit garçon.
Ça veut dire la chance en latin, c'est quand même incroyable.
Ah, j'ai beaucoup de chance, tout au long de ma vie. Vous savez, la chance, c'est les rencontres. Mais la chance, il faut savoir la saisir.
Comment elle vous tend la main, Fortuna ?
Elle me tend la main parce que ça l'arrangeait, elle. Elle avait choisi la deuxième solution dont j'ai parlé, c'est-à-dire la prostitution, mais elle voulait arrêter. Et elle avait compris qu'elle pouvait faire du spectacle. Et me voyant, moi, à Marseille, quand j'étais étudiante à Aix-en-Provence, je travaillais à la faculté de droit, je travaillais le soir dans une boîte. Et un jour, aujourd'hui on dirait une drag queen, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, me fait monter sur scène.
Ouais.
Et là, d'un coup, j'ai pris un plaisir fou à être habillée en fille, à m'exprimer, à bouger, et à faire du spectacle. Et j'ai compris que ça me plaisait. Et elle, quand elle est venue à Paris, à Marseille, pardon, et qu'elle m'a vue sur scène, elle m'a dit « Mais c'est ce que tu dois faire. » Et moi, j'étais hésitante parce que quand même, mes études marchaient bien.
Oui.
Et je lui ai dit « Écoute, si j'échoue à l'examen, parce que j'ai déjà échoué au mois de juin, mais à l'examen de rattrapage, je pars avec toi. » Et elle me dit, moi je connais un endroit où on pourra travailler qui s'appelle Madame Arthur à Anvers.
Donc on est en Belgique.
En Belgique. J'ai dit ok, je veux, ok. Et évidemment, j'ai lamentablement échoué sur le mariage putatif. Je m'en rappellerai toute ma vie.
Ça veut dire quoi le mariage putatif?
Ah ben c'était une question qu'on m'avait posée sur le mariage putatif, c'est-à-dire c'est un mariage...
Ah. Dans votre concours de
oui,
droit
oui.
D'accord.
Voilà. Et donc, voilà, j'ai échoué, lamentablement. Ça n'est pas un acte manqué du tout. Je pense que je l'ai fait exprès. Et je me suis retrouvée avec elle à Paris. Pendant 2 mois, on a monté nos numéros. On a acheté des fringues. Tout ça, je le raconte dans un premier livre que j'avais écrit.
Bah, on va raconter toute cette période de mutation. Vous entrez dans votre corps et dans votre vie. Enfin, Galia Salimo, vous racontez d'ailleurs cette histoire incroyable dans le livre « Quelque chose en moins ou en plus ». C'est aux éditions Robert Laffont.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
Vous découvrez le parcours d'une femme transgenre, une artiste née dans le corps d'un garçon et qui a trouvé son identité dans les nuits parisiennes dans les années 70. Galia Salimo, vous êtes une reine de la nuit parisienne. Vous avez été danseuse dans les plus grands cabarets parisiens comme le Carrousel, le Palace, l'Alcazar, le Queen. Et vous nous racontez ce destin incroyable. C'est un destin que vous avez pris en main parce qu'il vous fallait vous sauver la peau
et entrer
enfin dans votre vie. Ce qui vous arrive quand vous débarquez à 17 ans après des années de racisme et de souffrance, on peut le dire, à Marseille, même si vous avez peut-être aussi quelques bons souvenirs
de
cette enfance.
Je pense que même les enfants trouvent toujours leur bonheur avec leurs parents, toujours. Quelle que soit la qualité de vie. Évidemment, ils sont battus, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le bonheur pour un enfant, c'est d'être avec ses parents. Le reste importe peu. Même si on mange qu'un chocolat le dimanche, ou vous voyez, ces choses-là, on rien. Et puis en plus, il y a une chose incroyable, il n'y avait pas la télévision, ou très peu, il y avait 3 chaînes à l'époque. Donc on ne voyait pas, la vie des autres n'était pas étalée.
Bien sûr.
On ne voyait que la nôtre et celle de nos voisins, et comme on était tous pareils, on trouvait ça normal.
Et ça rend votre destin d'autant plus dingue, Galia, que vous décidez d'aller à Paris pour devenir une femme et vivre de votre passion, ah, le show, oui. Alors que vous avez fait des études de droit. Votre toute première audition pour monter sur les planches, pour devenir artiste, vous nous racontez ?
C'était catastrophique. On est parti donc avec cette fortune-là, on est parti en Belgique pour passer une audition. Un cabaret qui s'appelait Madame Arthur à Anvers. Et voilà, on arrive pour notre audition, on avait préparé les numéros, un numéro à deux, les petites femmes de Paris. Moi, je faisais un striptease habillé en Charleston, sur une musique de Charleston. Elle chantait une chanson, Stranger in the Night. Et le premier soir, elle commence à chanter Stranger in the Night. Elle est au début de la chanson, l'orchestre est à la fin.
Bon, un peu de contretemps déjà.
Le patron vient lui arrache le micro des mains et au numéro suivant.
Allez, hop.
Quant à moi, j'arrive avec un Charleston, je ressemblais à Mireille Darc à l'époque. J'arrive comme ça, sublime, avec vraiment, c'était fabuleux, je me trouvais divine. Je commence mon Charleston.
C'est beau dire ça de soi, j'adore.
Ah, j'avais une très jolie perruque blonde, ouais. Avec un petit turban, vous savez, très 25. Et je commence à faire mon Charleston et essayer d'enlever vos bas en dansant le Charleston.
Très compliqué.
C'est très compliqué. À tel point que je me retrouve par terre et que la perruque se retrouve sur la table. Évidemment.
Bon, évidemment, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Voilà ma première audition.
Comment ça a démarré alors après? D'ailleurs, il faut parler de la transformation. Comment d'un physique de garçon, vous devenez cette femme?
Vous n'avez qu'à me regarder.
Bah, d'ailleurs, je vous vois aujourd'hui.
Mais je suis le même.
Mais vous êtes une femme.
Mais
je ne vois pas le garçon en vous, en fait.
J'ai toujours été comme ça.
Vous avez les cheveux longs,
regardez,
vous avez un visage long, un corps magnifique, une très jolie taille.
Mon nez n'est pas refait, mais bon, j'ai fait un lifting.
Écoutez, si ça vous fait du bien, c'est le principal.
Mais à mon âge, c'est normal. Ouais. Je vais bientôt avoir 100 ans. Donc,
qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez appris à vous maquiller?
Elle m'a appris à me maquiller.
À avoir une sorte un port de femme, je ne sais pas. Non,
ça j'avais toujours. Ça, depuis toujours, hélas.
Oui, parce que vous êtes née femme dans un corps de garçon.
Oui, mais j'avais les gestes, les mains. On me disait, je me souviens, j'avais une tante qui me disait, mais pourquoi tu marches comme ça? Je dis, je marche comme on marche, non? Tous les mannequins marchent comme ça. Non, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, en prenant des hormones, au tout début, j'ai commencé à prendre. J'ai hésité quand même parce que j'avais peur, parce qu'on disait des horreurs sur ça, que ça donnait le cancer, que ça donnait plein de choses, enfin bref, des fantasmes. Mais quand j'ai commencé à prendre, effectivement, quand vous prenez des hormones, d'un coup, vous vous arrondissez.
Donc vous avez eu une poitrine?
La poitrine, bien sûr, la poitrine.
Ça, c'était magique pour vous?
Oui.
D'avoir des seins?
Ça a été extraordinaire. Ouais. Pour moi, ça a été une chose, je regardais tous les jours. Et puis surtout les sensations.
Ah, ça fait quoi? Mais bon, moi, ils étaient déjà...
C'est pareil que vous, c'est-à-dire que si on vous titille un peu...
Voilà, ça... Vous êtes aussi sensible des seins qu'une femme...
Ah mais je ne sais pas, enfin j'en sais pas.
Bah, si vous avez des sensations, des émotions...
Ah mais c'était, moi, de toute façon, je disais toujours, c'est le bouton qui me permet de...
Ah oui?
De partir
c'est génial.
En vrille.
Mais parce que vous rêviez de ces seins aussi, pour vous, être une femme, c'était avoir des seins?
Je sais, non, ça allait beaucoup plus loin, Être une femme, c'était... être une femme, c'est... Vous savez, curieusement, cet aspect féminin, je l'ai toujours eu. Ouais. Je suis une fille, je me revendique comme une fille. Mais j'oublie jamais que j'ai été un garçon. Et une petite... comment dirais-je? Cellule. C'est que je sais que je n'aurai jamais d'enfant. Et ça, pas que j'ai envie d'enfant, j'en ai pas du tout envie. Jamais. Mmh. Parce que j'estime que ce dont a besoin un enfant, je pense pas que j'aurais pu lui donner avec la vie que j'avais. Avec la vie un peu dissolue.
Bah, c'est génial de le savoir.
Que j'avais. Ouais. Donc, ça m'a jamais pris. Mais...
Vous auriez aimé avoir la possibilité, c'est ça, de faire un enfant.
Parce que pour moi, une femme, c'est ça. Ça n'est pas que ça. Une femme, c'est pas une pondeuse, non. Mais... C'est une femme, c'est elle qui donne la vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, c'est ça, le mystère et la magie de la vie. Et c'est pour ça que j'aime les femmes, pas physiquement. Ça m'a posé des problèmes d'ailleurs.
Pourquoi ça vous a posé des problèmes?
Parce que, je sais pas si je peux vous dire ça.
Vous pouvez tout nous dire, tout me dire. Ça reste entre nous et les auditrices
et auditeurs de France. Parce que je suis allé jusqu'au bout de mes rêves. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'à l'opération.
Oui.
J'ai été opéré.
Vous n'avez plus de pénis, vous avez un vagin.
J'ai un vagin.
Une vulve.
Mais le problème, au départ,
ouais.
aujourd'hui, j'ai eu, comme toujours, les rencontres, j'ai eu une chance extra. J'avoue qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai une vie fabuleuse, extraordinaire et chanceuse. Une chance. D'ailleurs, dans le livre, on peut le lire et on s'en rend compte. Et pour vous dire que simplement, au début, après l'opération, mais ça, je n'ai pas encore écrit dans le livre, ça sera dans le prochain, c'est terrible d'avoir un sexe que vous n'aimez pas chez les autres.
Oui, je comprends.
Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça, je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire, à le faire comprendre. Parce
c'est,
que,
c'est-à-dire que vous rêviez de ce...
J'en rêve, c'est
de,
ma
de
vie.
De cette vulve, de
et
ce
je
vagin.
Je suis heureuse.
Mais vous ne l'aimez pas chez les autres parce que vous aimez les hommes.
Mais oui.
Mais voilà.
C'est ça le problème. C'est là, le problème est là. Et donc, la chance de rencontrer des... un garçon extraordinaire même, qui m'a été envoyé comme ça. Lui-même disait qu'il m'avait été envoyé, et c'est vrai. Et, il m'a, et grâce à lui, je me suis acceptée telle que j'étais.
Vous avez...
me suis trouvée belle telle que j'étais.
Mais vous êtes magnifique. Vous avez des amoureux ? Vous avez encore un amoureux ?
Non, aujourd'hui c'est fini tout ça. J'ai fermé le magasin.
Oh,
non,
comment
non.
ça ?
À mon
âge. Mais votre cœur, il n'est pas fermé, Galia.
Ah non, mon cœur est ouvert. Mais mon cœur est ouvert pour d'autres choses. Pour les autres. Je suis beaucoup plus humaine en vieillissant. C'est la peur de l'enfer.
On continue à raconter votre destin dans un instant. Galia Salimo, merci beaucoup pour votre témoignage et d'être dans Minute Papillon.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
C'est un destin extraordinaire que vous découvrez dans Minute Papillon, celui de Galia Salimo, petit garçon, qui s'est toujours senti femme et qui est devenue une grande artiste de la nuit parisienne, danseuse dans les plus grands cabarets parisiens. Et c'est à cette occasion-là que vous avez adoré, Galia, chanter Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin.
Vous deviez faire sensation et même grincer des dents avec cette chanson, parce qu'elle est quand même très crue, elle a été censurée, cette chanson de Colette Renard, ça c'est la version liberté exclusive.
Ah oui, mais dans le cabaret on pouvait tout se permettre, dans les cabarets on se permettait tout et ça c'était énorme.
C'était en 1963 qu'elle chantait ça, Colette
Renard. Oui c'est ça, en 63, c'était énorme, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait chanter une chanson pareille à la télévision. Oui, on peut, parce que
non,
c'est elle.
Non, je ne crois pas. Hein.
Mais
oui.
Une nouveauté, non. Je ne pense pas qu'une chanteuse aujourd'hui pourrait... Mais vous savez, à l'époque, il y avait plein de chansons grivoises comme ça.
Oui.
Il y en avait
vous
plein.
Vous avez d'autres en tête ?
Oh, j'en ai une, c'est « Viens Théophile, mon beau jeune homme, viens nous allons croquer la pomme, pas de mal à ça.
» Jusque-là, ça va, ça part surtout de fruits.
Viens donc chez moi, place des abbesses. Je te pomperai une belle paire de bras. Et le public criait fesses.
Oui, voilà. C'est génial.
En amour, je cours, je galope, car je suis la reine des sabbats. Et les gens criaient salope.
C'est génial.
C'était des numéros de cabaret.
Il y a un autre artiste, une autre rencontre qui a bouleversé votre vie, Galia Salimo, c'est Zambella.
Ah,
qui est-ce?
C'est elle, enfin c'est lui, parce que c'était un monsieur. Ça, c'est vrai. Vous connaissez la chanson de Lama, la chanteuse à 20 ans?
Non.
Ah, c'est extraordinaire, c'était ça. C'est-à-dire que c'est un vieux monsieur.
Oui.
Il a un vieux monsieur rabougri, parlaisant, un peu voûté.
Oui.
Il avait une perruque et une casquette. Il arrivait dans la loge. Il s'asseyait.
Oui.
Au fur et à mesure, il enlevait la casquette. Il enlevait son toupet. Il mettait un bonnet.
Oui.
Il commençait à se maquiller. Et au fur et à mesure que dans la glace apparaissaient Zambella, il se redressait, il devenait éblouissant, et à la fin, il mettait des lunettes en strass. Des lunettes en strass, et criait « Voilà, 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 voilà !» Et c'était fabuleux.
Un artiste transformiste.
Ah oui, c'est un transformiste,
ouais.
Mais c'était fabuleux, fabuleux. Et c'est lui qui m'a monté, comme on dit, les premiers numéros,
ouais.
Et qui m'a permis de passer une audition chez Madame Arthur à Paris,
ouais.
Où là, j'ai été engagée.
Pourquoi vous plaisiez à ce point ?
Sans doute, parce que j'étais différente. j'étais différente. Elles étaient toutes blondes, ouais, petites, avec des gros seins. Moi, j'étais grande, brune, frisée.
Avec des gros seins ou
ah,
des,
non, des petits seins. Petits seins. À la coque, à l'amour, comme dit Ferré.
C'est merveilleux parce que vous avez dit plusieurs fois, je me trouvais sublime.
Ah bon pas...
Oui, vous avez
ah,
dit,
oui,
je me trouve... Non, mais je trouve ça fascinant.
Je me trouvais sublime dans la glace.
Non, c'est bien, c'est beau parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont un regard sévère sur elles-mêmes.
Mais j'ai un regard très sévère.
Ah, quand même.
Ah oui.
Ah, donc vous êtes vraiment une vraie femme.
Vous savez, c'est comme un papillon. Ouais. Quand il devient papillon, il se trouve magnifique. Et puis après, il voit le défaut. Il commence à voir les défauts. Et c'est ce qui m'est arrivé après. Après, on doute. Au début, c'est merveilleux. L'éclosion est extraordinaire. Et après, on doute.
Aujourd'hui, vous doutez encore ?
Je doute toujours, heureusement. Je suis très modeste.
Vous êtes passionnante, Galia Salimo. Vous publiez « Quelque chose en moins ou en plus », titre merveilleux qui raconte bien votre histoire. C'est chez Robert Laffont. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt dans Minute Papillon.
Merci, c'est Denis.